Guccio réfléchissait. Soudain, par une grande volte à travers la salle, il vint se planter devant l'agent de l'autorité et lança « Permettez, messire prévôt, ne seriez-vous point un peu en train de voler ?» Stupéfait, le prévôt lui fit face et lui demanda qui il était. « Il n'importe, » répliqua Guccio, « et souhaitez ne point l'apprendre trop vite, si par malchance vos comptes n'étaient pas justes. Mais j'ai moi aussi quelques raisons de m'intéresser aux oires du sire de Cresset. Veuillez me dire à combien vous estimez ce domaine ?» Comme l'autre essayait de le prendre de haut et menaçait d'appeler ses sergents, Guccio continua « Prenez garde ! Vous parlez à un homme qui, voici 5 jours, était l'hôte de Madame la Reine d'Angleterre et qui a le pouvoir demain de faire savoir à messire Enguerrand de Marigny comment ses prévôts se comportent. Alors répondez, messire, que vaut ce domaine ?» Ces paroles firent grand effet. Au nom de Marigny, le prévôt s'était troublé. La famille se taisait, attentive, étonnée, et Guccio se sentit comme grandi de 2 pouces. « Cresset est porté aux estimations du bailliage pour 3 000 livres, » répondit enfin le prévôt. « 3 000 livres ? Vraiment ? » s'écria Guccio. « 3 000 livres, ce manoir de campagne ? Alors que l'hôtel de Nel, qui est l'un des plus beaux de Paris, et la demeure de Monseigneur le roi de Navarre, est inscrit pour 5 000 livres au registre de la taille ? On estime cher dans votre bailliage. Il y a les terres. Le tout en vaut 900, au mieux compté. Je le sais de source sûre. » Le prévôt avait au front, entourant l'œil gauche, une large tache de naissance couleur lit de vin, et Guccio, tout en parlant, fixait cette envie, ce qui achevait de décontenancer le prévôt. « Voulez-vous me dire maintenant, » reprit Guccio, « quelle est la taille de mutation ? 4 sols à la livre, dans le bailliage ? Vous mentez gros, messire Portefruit. La taille est de 2 sols pour les nobles, en tout bailliage. Vous n'êtes pas seul à connaître la loi, nous sommes 2. Cet homme se sert de votre ignorance pour vous gruger comme un coquin, » dit Guccio en s'adressant à la famille Cresset. « Car il vient vous effrayer en vous parlant au nom du roi. Mais il ne vous dit pas qu'il a les impôts et tailles en fermage, et qu'il versera au trésor ce qui est prescrit par les ordonnances, et que tout le surplus, il se le mettra en poche. Et s'il vous fait vendre, qui donc achètera, non pas pour 3 000, mais pour 900 ou 500, ou juste pour la dette, le château de Cresset, ne serait-ce pas vous, messire prévôt, qui auriez ce beau dessein ?» Toute l'irritation de Guccio, ses dépits, sa colère, trouvaient leur emploi et leur exutoire. Il s'échauffait en parlant. Il avait enfin l'occasion d'être important, de se faire respecter, de jouer les hommes forts. Passant allègrement dans le camp qu'il venait attaquer, il prenait la défense des plus faibles et se posait à présent en redresseur de tort. Quant au prévôt, sa grosse face ronde avait pâli et seule son envie violette au-dessus de l'œil gardait une teinte foncée. Il agitait ses bras trop courts d'un mouvement de canard, il protestait de sa bonne foi, ce n'était pas lui qui tenait les comptes, on pouvait avoir fait une erreur, ses commis ou bien ceux du bailliage. « Eh bien, nous allons les refaire, vos comptes !» dit Guccio. En quelques instants, il lui démontra que les Cressets ne devaient pas tout additionner, principal et intérêt, plus de 100 livres et quelques sols. Alors maintenant, venez donner ordre à vos sergents de délier les bœufs, de reposer le blé au moulin et de laisser en paix d'honnêtes gens. Et, empoignant le prévôt par l'emmanchure, il l'amena jusqu'à la porte. L'autre s'exécuta et cria au sergent qu'il y avait erreur, qu'il fallait vérifier, qu'on reviendrait une autre fois et que, pour l'instant, on remit tout en place. Il croyait en avoir fini, mais Guccio le ramena vers le milieu de la salle en lui disant « Et à présent, rendez-nous 170 livres !» Car Guccio avait si bien pris le parti des Cressets qu'il commençait à dire « nous » en défendant leur cause. Là, le prévôt s'étrangla de fureur. Mais Guccio le calma vite. « N'ai-je pas entendu tout à l'heure, demanda-t-il, que vous aviez déjà perçu par le passé 270 livres ?» Les 2 frères acquiescèrent. « Alors, messire prévôt, 170 ?» dit Guccio en tendant la main. Le gros portefeuille voulut ergoter. Ce qui était versé, il faudrait voir au compte de la prévôté. D'ailleurs, il n'avait pas une telle somme sur lui, il reviendrait. « Mieux vaudrait que vous eussiez cet or en votre sac. Êtes-vous bien sûr de n'avoir rien récolté aujourd'hui ?»« Les enquêteurs de messire de Marigny sont rapides, » déclara Guccio, « et votre intérêt vous commande de clore cette affaire sur le champ. » Le prévôt balança un instant, appelait ses sergents, mais le jeune homme avait l'air singulièrement vif, et il portait une bonne dague au côté. Et puis, il y avait les 2 frères Cressets solidement taillés, dont les épieux de chasse étaient à portée de main sur un coffre. Les paysans prendraient sûrement la cause de leur maître. Mauvaise affaire dans laquelle il valait mieux ne pas s'aventurer, surtout si elle devait venir aux oreilles de Marigny. Il se rendit et sortant une grosse bougette de dessous son vêtement, il compta le trop-perçu. Seulement alors, Guccio le laissa partir.
« Nous nous souviendrons de votre nom, messire Prévôt !» lui cria-t-il sur la porte.
Et il revint, riant largement, en découvrant toutes ses dents qu'il avait belles, blanches et serrées. Aussitôt la famille l'entoura, l'accablant de bénédictions, le traitant en sauveur. Dans l'élan général, la belle Marie de Cressay saisit la main de Guccio et y posa ses lèvres. Puis elle parut effrayée de ce qu'elle avait osé. Guccio, enchanté de lui-même, s'installait à merveille dans son nouveau rôle. Il venait de se conduire selon l'égal des preux. Il était le chevalier errant arrivant dans un château inconnu pour secourir la jeune fille en détresse, délivrer des méchants la veuve et les orphelins.
« Mais enfin, qui êtes-vous, messire? À qui nous devons tant ?» demanda Jean de Cressay, celui qui portait barbe.
« Je m'appelle Guccio Baglioni, je suis le neveu de la banque Tolomei et je viens pour la créance. »
Le silence se fit dans la pièce. Toute la famille s'entre-regarda avec angoisse et consternation, et Guccio eut l'impression qu'on le dépouillait d'une belle armure.